Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant et merci de nous suivre dans cette seconde partie du magazine de l'environnement, du climat et de la nature. Dans une dizaine de minutes, vers 9h20, nous retrouverons le professeur Dominique Bourg. Ce sera le deuxième épisode de la nouvelle série que nous consacrons au développement durable. Titre de l'épisode de ce matin, les erreurs du passé et comment ne pas les répéter. Pour l'instant, nous nous intéresserons à ce fameux quatrième rapport sur le climat de la planète. Un rapport scientifique présenté hier à Paris. C'est le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Quatrième rapport du GIEC, 2500 experts scientifiques ont travaillé durant 6 ans à la rédaction de ce nouveau document. Le dernier datait de 2001. Alors c'est un pavé de plus de 1000 pages, un énorme document qui présente l'état actuel de nos connaissances sur le climat de la planète et qui montre également de manière très détaillée et régionalisée ce que sera notre climat planétaire demain, dans 50 ou 100 ans. Et attention, le rapport publié hier, ce n'est que la première partie du travail du GIEC, on pourrait l'appeler volume 1, puisque 2 autres rapports sont attendus ce printemps. Le deuxième montrera les impacts du changement climatique, conséquences économiques, écologiques et sociales, il sortira en avril. Quant au troisième, le dernier volet, ce sera pour le mois de mai, il présentera les options envisageables pour atténuer les effets ou comment s'adapter à ce réchauffement du climat. 3 pavés de 1000 pages, une énorme documentation scientifique, parfois ardue à saisir. Alors, comment s'y retrouver dans ces rapports et comment aller à l'essentiel? Pour faciliter l'accès à cette information, les experts du GIEC ont également rédigé une version courte, une 15aine de pages. C'est ce qu'ils appellent la version pour les décideurs. Cette version courte du rapport a été écrite cette semaine à Paris. 552 personnes y ont participé. Et évidemment, pour mettre tous ces experts d'accord entre eux, il a fallu négocier la tournure de certaines phrases mot à mot. Plusieurs scientifiques de notre pays ont joué un rôle important dans l'élaboration de ce quatrième rapport scientifique de GIEC. À l'université de Lausanne, par exemple, j'ai contacté Antoine Guizan. Il fait partie des 23 scientifiques suisses qui ont alimenté de leurs connaissances cette nouvelle Bible du climat. Antoine Guizan, bonjour.
Bonjour.
23 scientifiques suisses qui participent à l'écriture de ce quatrième rapport du GIEC, c'est une belle contribution pour les universités et pour les chercheurs de notre pays.
Oui, tout à fait. C'est une importante contribution comparée à d'autres pays européens. Et si on veut s'en convaincre un peu plus, on peut aussi aller voir la base de données de Proclim, qui est un forum sur les changements climatiques organisé par l'Académie suisse des sciences naturelles à Berne. Et donc, sur leur site et leur base de données, répertorient un peu tous les spécialistes suisses dans ce domaine, ainsi que les publications qu'ils produisent. Et si on parcourt un petit peu cette base de données, on se rend assez vite compte que la Suisse est un acteur important dans ce débat et dans cette recherche.
Alors, on y trouvera sûrement votre nom, hein, puisque vous avez contribué vous-même à ce quatrième rapport du GIEC dans votre domaine de recherche. On en parlera dans un instant. Quels sont les autres experts suisses qui ont apporté leurs connaissances et les résultats de leurs recherches?
Alors, il serait un petit peu difficile, vous avez mentionné le chiffre de 23, de les citer tous, mais on peut aller par domaine, et par exemple, on a une personnalité assez connue concernant les changements climatiques eux-mêmes, un climatologue, je pense au professeur Martin Benniston, mais on a aussi d'autres chercheurs, comme le docteur Andreas Fischling à Zurich, qui lui a coordonné un chapitre assez important de ce rapport, ou par exemple le docteur Bernard Clos chez Météo Suisse. Donc on voit que ce sont des scientifiques dans différents domaines, et que les compétences sont assez bien réparties, je dirais, comme vous le disiez, dans les différentes universités.
Ces experts, ces scientifiques, ils sont choisis de quelle manière? Qui leur commande ces travaux et ces études?
Alors, le GIEC, l'IPCC en anglais, est un organisme qui dépend de l'Organisation météorologique mondiale, donc de l'ONU d'une certaine manière, et c'est en fait une forme de réseau de scientifiques à travers le monde, et donc il y a des répertoires aussi, des bases de données gérées par le GIEC, dans lesquelles sont répertoriés tous ces scientifiques, et donc les experts sont en général choisis à travers ces bases de données. Par contre, les scientifiques qui écrivent les chapitres sont en général choisis par le responsable de la rédaction d'un chapitre, donc il y a une petite hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont responsables de chapitres et qui font appel aux experts nécessaires pour rédiger le chapitre en question.
En tant qu'expert, est-ce que votre liberté de travail, votre indépendance est totale? Je pense notamment par rapport au gouvernement ou aux milieux économiques.
Alors, je ne peux parler que de ce qui me concerne, mais en tout cas, dans mon cas, effectivement, la liberté était totale. On ne reçoit pas de directives. Je dirais que les seules contraintes qu'on a, c'est en termes de longueur de texte, de niveau de synthèse, où on a des rubriques particulières à remplir pour répondre à certaines questions précises, par exemple, que se posent des décideurs.
Donc, pas de pression pour noircir ou embellir le tableau.
Donc, aucune pression de ce point de vue-là. Et vraiment, je dirais, je tiens à préciser que c'est vraiment un travail scientifique. Donc, le but est de refléter l'état actuel des connaissances dans ce domaine à partir du matériel publié dans les revues scientifiques internationales. Donc je pense qu'on peut vraiment parler de consensus scientifique, de procédures rigoureuses pour ces rapports.
Antoine Guizan, vous travaillez et vous enseignez au département de l'écologie et de l'évolution à l'Université de Lausanne. Quelle est votre contribution personnelle à ces travaux du GIEC ?
Mes contributions, je dirais qu'elles sont multiples, elles sont doubles dans le cadre de ce présent rapport. D'une part, mon groupe et moi-même développons des modèles qui permettent de prédire l'évolution de la flore ou des écosystèmes en réponse à ces changements climatiques. Et donc, on a contribué sur l'aspect, je dirais, un peu technique de ces modèles pour les décrire dans ce rapport. Il faut aussi bien expliquer comment sont générées, par exemple, ces projections. Et puis, sur un autre plan, alors directement le résultat de nos simulations ou de nos modèles sont utilisés, par exemple, dans mon cas, dans le chapitre sur l'Europe et sur les régions de montagne, pour caractériser un petit peu l'impact possible des changements climatiques sur la flore alpine, et donc les changements, par exemple, du paysage auxquels il faudra s'attendre dans le futur.
Pour terminer, Antoine Guizan, à propos de ce document pour les décideurs, ces 15 pages censées résumer l'avenir du climat de la planète pour les décennies à venir, si vous étiez, par exemple, un décideur responsable dans le domaine touristique, quelles seraient vos 3 bonnes raisons de lire attentivement ce résumé ?
La première me semble être simplement d'informer le public ou d'informer ses concitoyens ou ses collègues. Je pense que quelqu'un qui a un rôle de responsable dans le domaine touristique doit vraiment être informé à l'avance sur toutes les implications que ça pourrait avoir sur ses activités. Et puis le deuxième point serait évidemment, sur la base de cette information, de pouvoir anticiper. Et là, je pense par exemple à des réorientations des activités touristiques dans certaines régions, si le ski ou d'autres sports d'hiver deviennent plus difficilement praticables, il faudra songer à peut-être recycler un petit peu le tourisme dans d'autres domaines. Et puis le troisième, c'est peut-être un peu plus général, et c'est l'aspect de pouvoir contribuer à peut-être minimiser ces impacts des changements climatiques, ce qu'on appelle les mitigations. Prendre des décisions politiques, par exemple, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et ça pourrait passer, par exemple, par la promotion d'énergies renouvelables.
Donc informer, anticiper et s'adapter. Et
voilà, je pense que ça serait formidable si finalement ces 3 dimensions pouvaient être extraites des rapports IPCC et vraiment encourager une prise de conscience et une action dans le public et dans la communauté des décideurs.
Antoine Guizan, un des 23 scientifiques suisses qui alimentent de leurs connaissances ces fameux rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le 4e rapport est donc sorti hier, de même que la version courte, le résumé pour les décideurs. 2 choses à préciser, vous trouverez les grandes lignes du rapport du GIEC sur nos pages internet, rsr.ch/atlas, et puis samedi prochain, dès 8h35, nous nous plongerons dans ces 1000 pages à propos du climat de notre planète. Nous le ferons avec Michel Petit, membre de l'Académie des sciences. Durant 10 ans, Michel Petit a représenté la France au sein du GIEC.